Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai, telle une passerelle vers l'écoute. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Nos villes surchargées de bruit tuent dans l'homme ce qu'il a d'essentiel. Ouvre au tout autre, à celui que tu appelles ton Dieu, ton cœur, afin de te laisser purifier. La paix et la grâce nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bienvenue à chacune et chacun de vous pour ce culte d'été ce matin. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons choisi de placer une coupe et un plat sur la table de communion, voilà, en symbole de cette scène que nous ne pouvons toujours pas partager, mais voilà, une autre façon d'être en communion, de nous rappeler la fraternité et ce temps de partage les uns avec les autres. Nous chantons ce matin les spontanés dans le petit feuillet écru au début de vos recueils, ainsi que les deux cantiques dont les numéros sont indiqués. Je vous invite à vous lever pour chanter.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia.
Je vous invite à rester debout pour louer Dieu. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'homme comme un artisan dans son atelier. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète le confesse dans sa prière. Cependant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Oui, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Mais quelle est notre terre? Sommes-nous souples et malléables entre ses mains? Sommes-nous trop secs, peut-être quand parfois nous manquons d'eau et nous abritons alors des grumeaux qui résistent aux mains de l'artisan? Le culte est l'un des moyens pour travailler notre argile, pour nous laisser façonner par le potier. Loué sois-tu, Seigneur, pour nous tous ce matin rassemblés à ton écoute. Que notre temple ce matin soit l'atelier de l'artisan. Seigneur, nous arrivons chacun avec notre coin de terre. Nous te remettons dans la louange l'argile de nos vies pour que tu nous façonnes. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et nous poursuivons en chantant un psaume, le psaume 134, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Vous le trouvez à la page 148.
Thank you.
Écoutons cette histoire d'évangile. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé de l'ivraie au milieu du blé et s'en est allé. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, et amassez le blé dans mon grenier. » Je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous se côtoient le bon grain et l'ivraie. Le bon grain de ta parole, celui de la bénédiction, et l'ivraie, la mauvaise herbe de nos craintes et de nos plaintes, de notre égoïsme et de nos avarices, de nos peurs et de notre torpeur, de notre sécheresse et de notre petitesse, de notre cupidité et de notre méchanceté. Seigneur, pardonne. Ne laisse pas notre ivraie étouffer le blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver et de la laisser croître en nous de bénédiction en bénédiction. Amen. Nous restons assis pour chanter. De pardon. Je vous invite à vous lever. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles. Et celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, reçoit la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher reconnaissant et confiant vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Restons debout pour écouter ce que Dieu veut pour nous. Je vous invite à entendre un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. Jésus parle. Vous avez appris qu'on a dit « Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis. » Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner ? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font cela. Soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Chantons. Avant de nous mettre à l'écoute de l'évangile de ce matin, prions. Dieu éternel, à l'écoute de ta parole, nous nous reposons. Seigneur, à ton écoute, nous voulons chercher nos chemins de vie. Permets-nous maintenant de recevoir la bonne nouvelle que tu prépares pour nous. Laisse-nous t'accueillir en nous, afin que tu puisses nous façonner. Tu es notre Dieu, le seul et l'unique Seigneur. Nous te louons. Amen. Et c'est Pierrick qui nous guide pour la lecture.
Nous écoutons la lecture chez Matthieu, chapitre 13, les versets 24 à 30. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire, « Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répond, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Le propriétaire leur dit, « En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble, jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe. » Faites des tables pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans une grenier.
Créateur,
avez-vous passé une belle nuit réparatrice, peuplée de rêves enchanteurs? Alors ce matin, vous êtes en grande forme pour vivre un beau dimanche d'été en démarrant par le culte. Peut-être ce matin avez-vous les paupières un peu lourdes, car les soirées d'été sont souvent longues et il a fallu un peu forcer votre sommeil pour vous rendre au culte. Peut-être aussi que la chaleur, les soucis ont parsemé vos nuits d'insomnie. Alors ce matin, c'est difficile de se réveiller et de se mettre à l'écoute. Aucune inquiétude. Vous ne serez certainement pas le premier à vous endormir pendant le culte. C'est en vérité assez paisible de dormir à l'écoute de la parole. Abba Poemen, un père de l'Église vivant dans le désert au tournant du IVe siècle, préconisait de laisser dormir ses frères fatigués pendant les offices. À cette époque, les frères vivaient dans des communautés spirituelles, dans la solitude, et se rejoignaient uniquement pour les offices. Les plus jeunes étaient scandalisés de voir leurs aînés s'endormir, et ils venaient s'en plaindre auprès de Abba Poemen. Quelques-uns lui demandèrent: « À ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office, faut-il les secouer pour qu'ils soient éveillés durant la vigile ?» Et il leur répondit: « Moi, quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sur mes genoux et je le fais reposer. Alors soyez tranquille, si les yeux vous piquent, fermez-les tranquillement. » Outre l'aspect comique de cette situation, il y a derrière ce geste d'accueillir la tête d'un frère une attitude d'accueil radical. Nous ne savons pas ce que vit notre frère, et l'accueillir consiste à le prendre comme il est. Même si les conventions voudraient que personne ne dorme pendant le culte, peut-être que dans ce cas, l'écoute de la parole de Dieu s'avère plus fine en laissant dormir une personne fatiguée qu'en lui mettant un coup de coude violent pour la forcer à rester réveillée. Eh bien, Abba Poemen suivait dans sa grande sagesse l'attitude du maître de maison dans notre parabole de ce matin. Vous l'avez entendu, le maître de maison ne reproche pas aux gens de la maison d'avoir dormi pendant que l'ennemi est venu semer la mauvaise graine dans son champ. Pourtant, ce sont bien eux qui en sont responsables et qui auraient dû en assurer la surveillance. Mais le maître ne fait aucun reproche. Il est normal de dormir après une bonne journée de travail. Dans la Bible, nous apprenons qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour dormir et un temps pour veiller. Un temps pour dormir sous la protection de Dieu. Nous lisons par exemple dans le livre des Proverbes: « Si tu te couches, sois sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de méchants, car l'Éternel est ton assurance. Il préserve ton pied de toute embûche. » Et puis, nous trouvons aussi dans la Bible des temps pour veiller. Dans l'évangile de Marc, par exemple. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra l'heure. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Veillez, car vous ne savez pas quand le maître reviendra. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Vous le savez aussi dans les évangiles, Jésus demandera à ses disciples de veiller avec lui dans la nuit de son supplice. Un temps pour veiller et un temps pour dormir. J'insiste sur cette question de temps, parce que dans notre parabole est exprimée la temporalité du royaume. Et elle nous est présentée en 6 étapes. Le temps de l'action, le temps du sommeil, le temps de l'ennemi, le temps de la germination, le temps du tri et le temps de la moisson. Le temps de l'action. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Le règne des cieux est semblable à une action. Le royaume n'est donc pas un lieu défini, mais un geste, une mise en route. Celui de semer la bonne semence. Le royaume n'est pas un acquis, mais une action au résultat aléatoire qui dépendent en partie des aléas climatiques, des agissements bons ou mauvais de chacun. Le royaume est une marche en devenir. Il n'est pas un espace figé. C'est une gestuelle, la gestuelle du semeur dans le froissement des grains lancés au ciel, vers la terre. Le royaume est une promesse en devenir. Puis vient le temps du sommeil. Après l'action, le repos. Laissons les éléments assurer leur travail. Les ouvriers peuvent dormir sur leurs deux oreilles dans l'attente de la germination. Le réformateur Martin Luther aimait dire qu'une fois qu'il avait bien prêché et semé la bonne parole dans la journée, il allait dormir paisiblement et que c'était à ce moment-là que Dieu la faisait germer. Le temps de l'ennemi. En effet, peut venir ce temps de l'ennemi. Son ennemi vint, raconte la parabole, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Alors que tout semble se dérouler paisiblement, arrive pendant le temps du sommeil l'imprévu. L'ennemi débarque et sème la mauvaise graine quand personne ne s'y attend. Cela a quelque chose de rageant, cette histoire d'ennemi. Une invasion d'insectes ou une tornade dévastatrice aurait été plus acceptable que cette intervention bête et méchante. La fatalité aurait pu alors être invoquée pour se consoler. Mais devant l'action néfaste, il n'y a que peu d'explications, et le texte n'en donne aucune. La parabole rapporte simplement les faits. Son ennemi vint. L'ennemi semble parfaitement identifié, mais également incontrôlable. Le connaissant, nous aurions pu imaginer une surveillance rapprochée, mais l'ennemi vint sans rencontrer aucune résistance et peut commettre son méfait. Remarquons que l'ennemi est aussi un semeur, mais de mauvaises herbes. La gestuelle est la même, mais elle aboutit à une contre-promesse, celle de la poussée du mal. Et à ce stade, suite à 2 semailles successives, les semences et les gestes des semeurs semblent indissociables. Personne ne peut repérer le bon grain de l'ivraie, ou pour le dire autrement, le bon du mauvais, ou encore la bénédiction de la malédiction. Le temps de l'ennemi apparaît aussi comme celui de la confusion. Confusion des semences, confusion des serviteurs du maître, qui veulent sans plus attendre réagir au scandale de l'ennemi. Peut-être sont-ils un peu honteux d'avoir dormi au lieu de veiller. Peut-être veulent-ils se racheter par une action immédiate pour tenter de revenir à l'état initial d'un champ de bonnes semences. Pourtant, le maître des semences et du temps les arrête. Ce n'est plus le temps de l'action, mais c'est celui de la germination. L'action risquerait d'accentuer le mal causé par l'ennemi. Le royaume s'établit dans la patience. Il refuse la précipitation et l'action à tout prix. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, dit le maître. Il existe parfois une certaine impatience à vouloir assainir nos champs de tout mal. Mais cette bonne volonté n'aboutit pas toujours à des résultats adéquats. Il arrive que, voulant expurger le mal, nous tuions toute vie. Cela me fait penser à notre beau lac. Le lac d'Annecy peut être le plus beau d'Europe, selon certains. En tout cas, le plus pur. Il est cité comme exemple d'assainissement de l'eau et les procédés mis en place depuis la création en 1957 du syndicat du lac sont copiés un peu partout. Mais cependant, cette pureté artificielle tue aussi la vie. Voici les propos d'un ingénieur de l'Institut national de la recherche agronomique. La pureté des eaux engendre une chute de phosphore, donc une baisse très nette du plancton et des algues. Les poissons, ne trouvant pas de nourriture en suffisance, deviennent alors plus petits et moins nombreux. Toutefois, la germination du royaume n'a rien à voir avec la purification et l'assainissement. Méfions-nous des serviteurs du maître qui partent au combat pour des histoires morales. Ils font finalement eux aussi le jeu de l'ennemi en détruisant la vie, en voulant la purifier. Le temps de la germination est le temps de la patience et de la promesse de voir le fruit attendu. Enfin, après la succession de jours ensoleillés et de jours pluvieux, le champ est prêt à être moissonné. La mauvaise herbe et le blé ont poussé. Le maître convoque une nouvelle équipe, les moissonneurs. Plus tard, dans l'évangile de Matthieu, Jésus précisera que ces moissonneurs sont des anges, plus aptes à réparer la confusion qu'avait créée le geste de l'ennemi. Avant la moisson, les moissonneurs doivent séparer la mauvaise herbe du blé. Et une fois les végétaux venus à maturité, le tri semble plus facile. C'est le temps du tri. La mauvaise herbe est brûlée. Et le temps de la moisson arrive. Cette parabole est une promesse pleine d'espérance pour nous. Car en nous, en effet, nous le savons, coexiste le bon et le mauvais. Et si nous confions notre vie à Dieu, nous recevons cette promesse que la bénédiction vaincra et que la malédiction sera jetée au feu. Le règne des cieux s'établit comme un déroulement d'action et de repos dans la succession de moments bien définis. Il est fait de discernement, de patience, et de gestes précis. Le royaume est un mouvement, un flux, une dynamique à emprunter dans la confiance du temps béni de Dieu. Au rythme de nos battements de foi, hésitants ou plus rythmés, entrons dans ce grand mouvement du royaume. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 52-17 à la page 858. Je vous invite à confesser notre foi en disant ensemble la confession de foi numéro 2 qui se trouve sur le petit feuillet blanc, tout à la fin des cantiques. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit, et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Chantons. Seigneur notre Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Reçois maintenant notre offrande et apprends-nous à en user selon ta volonté. nous te la présentons, en faisant mémoire également de ce temps de communion, ce dernier repas de ton Fils qui a annoncé sa mort et sa résurrection. Voici le temps de l'offrande. Que notre don soit joyeux. Notre Dieu, tu es semeur de vie. Loué sois-tu pour tous les fruits que nous essayons de porter en ton nom. Permets-nous de marcher dans le temps et les gestes de ton royaume, dans la confiance et l'espérance. Amen. Merci à Claude Françoise qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Merci à Pierrick et Frédéric pour l'accueil et la lecture. La semaine prochaine, la chorale reprend, donc mardi à 20h, dans la salle du premier étage avec des consignes particulières pour bien respecter les gestes barrières. Mercredi, le groupe de prière se retrouve toujours à 18h. Comme je vous l'ai déjà dit, les quatre cultes du mois d'août, les quatre premiers dimanches d'août, seront célébrés par Setso Afia, un pasteur togolais qui vient donc ici en suffragance, c'est-à-dire pour un mois de remplacement, et qui est doctorant à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Et puis le 30 août, ça sera le culte d'accueil des jeunes qui terminent leur catéchèse. Ils pourront s'engager avec la confirmation du baptême ou le baptême. Et le 6 septembre, l'Assemblée Générale, vous avez à la sortie le rapport d'activité, le rapport financier et deux pages pour les tableaux des chiffres. Donc il y a en tout quatre documents à emporter. Prenez-les maintenant, comme ça vous aurez le temps de les lire tranquillement jusqu'au 6 septembre. Vous trouverez également des numéros de Réveil, notre journal régional de l'Église, des numéros d'été, donc prenez-en pour vous, et puis vous pouvez en emporter un deuxième pour offrir. C'est l'occasion de faire découvrir ce journal qui est de bonne qualité. Alors nous vous proposons, à défaut de pouvoir nous mettre en cercle pour communier, nous vous proposons tout de même de nous mettre quand même en cercle pour marquer cette fraternité et cette communauté pour le temps de la prière d'intercession et du Notre Père. Alors, nous vous invitons à vous mettre en cercle comme on le fait d'habitude pour la Sainte Cène, en laissant un espace entre les familles ou les couples. Et puis, nous prendrons le temps de prier, de dire notre Père ensemble, voilà, en cercle de fraternité d'Église. Alors, je vous demanderai de ne pas vous approcher trop près de moi pour que je puisse continuer à parler sans le masque. Donc, voilà, restez, vous pouvez monter sur les marches, mais ne venez pas trop près. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir et dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé et qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leurs rires et leurs questions. Tu as été adopté par Joseph. Tu as donné du souci à tes parents. Tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre aimé. Tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant le prochain. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent et qui soignent. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation et qui osent le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui te suivent. Que l'amour soit le chemin de toutes nos actions. Et nous rassemblons toutes nos prières en disant d'un même cœur et d'une même voix, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'envoi et la bénédiction. Et maintenant, toi, mon frère, toi, ma sœur, quitte ce temple et partage ce que tu as reçu avec ceux que tu rencontreras. Oui, nous devons espérer l'Évangile. Nous devons chanter l'Évangile, partager l'Évangile, vivre d'Évangile. Le Christ est notre compagnon de route, fidèle et aimant. Il est notre souffle. Le Dieu éternel nous bénit et nous garde. Jésus-Christ, notre guide et notre compagnon, nous aime et nous conduit. L'Esprit Saint, le souffle consolateur, nous donne la paix dont nous avons besoin et la force qu'il nous faut pour avancer sur nos chemins. Nous sommes les bénis du Père. Allons en paix. Amen. Et nous chantons le dernier spontané.
Dimanche à tous.